et bienvenue à la série de balado « Parlons des cancers du sang » présentée par la Société de leucémie et lymphome du Canada à l'intention des personnes touchées par un cancer du sang. Ce balado vise à vous offrir des ressources, vous soutenir et vous informer. Quand il s'agit de cancer, il est difficile de naviguer dans l'inconnu et il n'y a pas de réponse facile. Nous sommes ici pour vous donner l'information qui vous aidera à comprendre toutes les étapes de l'expérience du cancer du sang. Je m'appelle Pascale Rousseau et je suis la chef des services à la communauté de la Société de leucémie et lymphome du Canada pour la région du Québec. Aujourd'hui, nous parlerons du lymphome non-Hodgkinien du manteau avec M. Jean-François Robert. M. Robert nous parlera de son expérience avec cette forme de cancer du sang. Il abordera le diagnostic, les traitements, les effets secondaires, etc. Alors, merci beaucoup, M. Robert, d'être avec nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
Donc, première question, parlez-nous un peu de vous et de votre expérience avec le lymphome du manteau.
Premièrement, c'est une grande question parce que c'est un long cheminement. Puis, c'est ça, quand j'ai commencé ça a commencé par une luminale dans la gorge, puis il était en plus enflé que l'autre. J'avais été voir mon médecin, puis il disait une allergie ou une petite éraflure sur le luminale qui a fait une enflure, tout ça. Mais à force que les mois passaient, ça commençait à grossir pas mal. Puis là, je sentais que c'était pas comme normal de vivre cette situation-là. J'ai demandé d'aller voir un ORL. Puis c'est ça, quand le médecin, le docteur Larrivé, m'a vu, là, il a dit « c'est pas bon signe, ça date plutôt d'un cancer ». Puis c'est là que le chemin a commencé, puis quand il y a eu l'opération, il y a eu le diagnostic comme quoi que j'avais un cancer dans une des deux amygdales. Puis ça, il n'a pas pris de chance, il en a enlevé plus pour être sûr, pour enlever encore qu'il y aura des cellules cancéreuses plus loin. Puis c'est ça, on a ça laissé, ça restait comme ça. Puis après ça, j'ai remarqué qu'il y avait d'autres ganglions qui ont commencé. Puis j'étais entouré par la clinique pour le cancer à Granby. C'est ça. Puis là, c'est de fil en aiguille, on a commencé parce que mon cancer est indolent. Alors automatiquement, ça grossissait tranquillement. Ça n'a pas été majeur au début. Puis c'est avec des scans à Granby qu'on a vu qu'il y avait des ganglions qui étaient enflés plus que la normale, puis il y en avait qui étaient plus gros que la normale. C'est ça, là, on a eu un ganglion dans la cuisse là, qui avait grossi énormément, puis le médecin oncologue, lui, il ne savait pas quel genre de cancer que j'avais. Il m'a passé une biopsie, puis là, c'est ça que le diagnostic a tombé, là, que j'avais le cancer de la cellule non-hodgkinienne, la cellule du manteau. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de traitement pour ce type de cancer-là. Puis c'est un cancer qui avait une récidive très élevée. Puis mon oncologue, il dit, bien là, on va commencer par une chimio de base, petite chimio. Comme il m'a dit, on ne donnera pas un coup de canon sur une mouche. Alors, on va commencer à des petits coups de fusil, puis après ça, on verra comment que le cancer va se propager, ou il va se calmer, ou il va diminuer. C'est ça, puis à force de faire des traitements de base en pilule, comme le curant, ça l'a maintenu stable, ça ne disparaissait pas, mais ça restait toujours là, puis à un moment donné, ça continuait à grossir, même si je prenais les médicaments, là, le curant, tout ça. Puis à un moment donné, on a passé des scans, puis on a vu que ça grossissait tout le temps à Granby, puis on a décidé de faire du R-COP. C'était en 2006, ma première grosse chimio. Parce qu'en 2003, 2004 et 2005, j'avais de l'équerrin tous les 6 mois à peu près, non? Et voilà, c'est ça, ça a commencé de même, le combat a commencé là.
Et à cette étape-là, le diagnostic, au début des traitements, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir à ce moment-là que vous n'avez peut-être pas eu l'information?
Ah, c'est une question qui est très vaste parce que au début, je m'en souviens, il n'y avait pas d'écoute téléphonique pantoute. Moi, j'avais un numéro de téléphone d'une madame de Granby. Quand je l'avais appelée, j'ai pas eu le temps bien de jaser avec elle parce que c'est elle qui parlait tout le temps. Alors, j'ai essayé de fouiller dans le bottin téléphonique pour voir qu'est-ce qu'il y avait sur le cancer. Puis, il y avait l'Association canadienne du cancer, puis il y avait aussi la Fondation québécoise du cancer à Québec. Puis, c'est ça, j'ai appelé là, puis j'ai parlé de mon cas, puis ils m'ont référé à un monsieur là, qui, lui, faisait de l'écoute Puis lui, ce monsieur-là, c'est un ancien ambulancier, il connaît toutes les parties du corps. Alors, quand j'avais des résultats de scan, qu'il y avait des ganglions un peu partout, puis telle place, il y en avait des plus gros, mais je l'appelle la journée même ou le lendemain, puis lui, j'expliquais, parce qu'il y a des noms scientifiques quand on lit un scan, puis on ne sait pas trop où ça se situe, ces affaires-là. Puis là, lui, il me disait, ça, c'est dans la cuisse. Ça, c'est pas loin d'un poumon. Ça, c'est en dessous de tes aisselles. Puis, je prenais des notes tout le temps pour savoir, pour pas que je le rappelle, pour dire qu'est-ce que tu me dis par rapport à cette partie du corps-là. Là. Puis, je prenais des notes. Seulement, j'ai appris pas mal où que les ganglions pouvaient se situer. Puis, des ganglions, on a 300 dans le corps. Alors, ça part en dessous du nez, en arrière de la tête, puis ça descend jusqu'aux cuisses de la craque de la cuisse.
Donc, vous auriez aimé ça, avoir du soutien de quelqu'un qui était passé par là, puis plus d'informations sur votre lymphome puis sur les traitements.
Oui, des lignes téléphoniques. Puis aussi, quand on sort de l'oncologue, je l'ai déjà à Granby dans le temps, c'est parce qu'on rentre chez l'oncologue, puis là, il nous dit, bon, là, je regardais ça, là, c'est pas bon signe, c'est pas mal un cancer, c'est pas mal sûr, puis t'as ça. Mais puis là, il t'explique après, qu'est-ce que tu vas vivre? Mais c'est comme tu as mangé à voler, là. Puis on vous reprend, on vous assoit, puis on vous explique pourquoi vous avez mangé à voler. Mais vous n'écoutez pas parce que ça fait tellement mal les claques que vous avez eues de changement de vie que vous allez vivre, que vous n'écoutez pas. Pas tout ce qu'il vous dit. Puis après ça, là, tu dois t'en aller où qu'il est la secrétaire pour prendre rendez-vous parce que là, tu vas avoir ta première chimio. Puis là, c'est comme t'es bouleversé, puis ça aurait été le fun d'avoir comme dans ce temps-là, une infirmière pivot. Aujourd'hui, il y en a des infirmières pivot, mais dans ce temps-là, il y en avait, mais c'était pas c'était pas comme qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est très encadré, puis aujourd'hui, on a des psychologues aussi en oncologie qui nous écoutent. Quand on sort du machine médecin, on peut rencontrer notre infirmière pivot à 5 minutes juste pour nous stabiliser, puis prendre les rendez-vous des fois pour nous aider parce que là, il faut prendre des prises de sang. Faut se rendre à l'hôpital telle heure, telle journée. Puis là, il faut être à jeun ou pour la prise de sang. Puis après, il faut amener notre lunch pour manger avant d'avoir notre traitement de chimio. En tout cas, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Puis surtout quand on n'est pas habitué de vivre ce genre de situation-là, c'est très bouleversant. C'est comme l'annonce qu'on voit à la télévision quand les gens apprennent qu'il y a un cancer, ils en volent par en arrière. Alors, c'est ça, si on était un petit peu plus encadré, un accompagnateur ou un aide, parce que moi, je n'ai pas de parenté. Là. Si j'avais eu un frère, une sœur ou un ou une amie qui est à côté de moi, qui prend des notes, mais quand tu sors du bureau, il dit, mais va t'asseoir, puis moi, je vais prendre rendez-vous pour toi, puis inquiète-toi pas, là, donne-moi ta carte d'hôpital, là, puis on va s'arranger. Mais quand tu es tout seul, là, puis tu t'arranges tout seul, c'est très dur de vivre ça, là, puis je sais que les premières années, quand j'avais le cancer, j'étais très dépressif, très secoué par, il y avait beaucoup de panique, puis des fois, j'ai remarqué que j'avais jamais pleuré comme ça avant. Quand on pleure, là, c'est comme on pleure tellement de l'intérieur, au lieu de pleurer de superficiel. Là, il fallait que je me contrôle dans mes pleurs pour pas trop m'épuiser parce que le lendemain, quand j'avais pleuré, j'étais épuisé, fatigué. Avec la chimio, ça aidait pas. Mais si j'avais eu comme une écoute téléphonique, mais là, j'aurais pu me calmer puis avoir dit, mais inquiète-toi pas, là, faut-tu vivre une journée à la fois, là. Aujourd'hui, là, t'es comme ça, ça va, là. Demain, c'est une autre journée. Casse-toi pas trop la tête.
Donc, l'importance d'avoir du soutien, d'être entouré, vous avez aussi mentionné au niveau des rendez-vous médicaux, hein, on le dit souvent, de venir préparer ou d'avoir quelqu'un avec nous, ça peut nous aider. Donc, ben merci d'être aussi franc et ouvert avec nous, là, M. Robert. Vous avez parlé, vous avez eu plusieurs traitements, donc vous avez parlé de la chimio, du R-CHOP. Quels ont été les effets secondaires majeurs de ces traitements-là?
Premièrement, la plupart des effets secondaires, c'est qu'intérieurement, notre système digestif change. Comme la sueur, quand vous dites, moi, je faisais du vélo ou je sais pas quoi, là, je sentais pas rien. Mais à cause de la chimio, quand elle est dans votre corps, à un moment donné, il faut qu'elle sorte. Alors, si vous allez aux toilettes, ça se peut que ça sente moins bon que d'habitude, ça se peut que ça sente plus fort. Puis quand vous avez la sueur, ça se peut que ça tache les vêtements, ça se peut aussi que ça vous pue un petit peu plus que la normale. Parce que le médicament, le corps le rejette. Puis surtout, vous avez des grosses doses, exemple de R-SHOP ou de R-COP ou un protocole de recherche que vous avez à peu près, vous allez passer peut-être 5 à 8 heures de temps assis sur une chaise de chimio, vous allez avoir plein de sacs à ouais, mais c'est sûr que dans la soirée ou le lendemain matin ou dans la semaine qui suit, c'est sûr que cette chimio-là va sortir de votre corps dans tous les sens. Ça se peut que vous ayez la diarrhée, ça se peut que vous soyez constipé, vous allez avoir peut-être la mauvaise haleine, vous allez avoir le goût tout croche dans la bouche, vous allez peut-être manger des affaires, vous allez dire, coton, je bois de l'eau puis ça goûte le médicament, c'est dégueulasse. Mais c'est ça, il faut trouver des solutions, il faut trouver des. Moi, qu'est-ce que je prenais? Je prenais du jus d'orange. Je rajoutais quelques petites gouttes de jus d'orange dans mon verre d'eau pour pouvoir le boire pour que ça goûte quelque chose. Comme, mettons, je mettais un petit peu plus, comme on met un petit peu de sel, on met un petit peu d'épices, mais pas trop, parce que vous pouvez avoir des ulcères sur la bouche ou à l'intérieur de la bouche ou dans le corps qui irritent le système digestif ou à l'intérieur de vos gencives, ça peut faire des plaques rouges. Là, ça fait mal, ça. Alors, des fois, se gargariser avec de l'eau puis du sel puis un petit peu de carbonate de soude, des fois, ça comme engourdit un peu l'intérieur de la bouche, mais là, vous pouvez manger, vous pouvez boire le liquide, puis ça peut goûter un petit peu mieux que la tôle ou du recyclage, là. Je fais des images, des mots d'images comme ça, mais ça ressemble un peu à ça.
C'est vraiment des bonnes suggestions que vous donnez, Monsieur Robert. Est-ce que vous avez expérimenté d'autres effets secondaires, puis avez-vous d'autres suggestions à faire pour mieux les gérer au quotidien?
Il y a le R-COP que j'ai eu. Ça, c'est ma première grosse chimio. Le plus important, c'est que soyez à l'écoute de votre cœur, à l'intérieur, le pouls de votre cœur. Si vous avez la chance, des fois, là, quand, je sais que quand on vous injecte les premiers traitements, on a toujours une chose de pression pour votre pouls, savoir si votre pouls est normal, parce que là il injecte de la chimio en vous. Ça se peut que, parce que moi, je mesure 6 pieds 1, 6 pieds 2, je pèse 180 livres, alors je suis assez bâti, automatiquement, eux autres, ils vont regarder la quantité de chimio qu'ils vont me donner pour un homme de 6 pieds 2, 180 livres. Mais intérieurement, mon corps, est-ce qu'il est capable d'endurer la force du liquide qu'ils vont me donner? C'est pour ça qu'ils vont vérifier tes symptômes de pouls, puis ouais, si tout est correct, si tu fais le bain. Mais quand tu as fini à 4 heures ou à 5 heures ton traitement de chimio, tu t'en vas chez vous. Mais le soir, là, la fatigue, en plus de la journée, le stress, ça se peut que votre corps ait de la misère. Soyez à l'affût de votre pouls. Parce que la première fois que j'ai eu la grosse chimio, c'était la veille de mon anniversaire, en 2006, mon pouls n'était pas régulier. Alors, le lendemain matin, quand j'ai appelé mon infirmière, j'ai dit ça, que mon pouls n'était pas régulier. Elle a dit, oh, elle a dit, parle-en au médecin quand tu vas le revoir, parce qu'il faut qu'il baisse ta dose, parce que c'est trop dangereux, parce que j'aurais pu mourir là. Alors, c'est pour ça que les prises de sang indiquent que ben là, il faut arrêter cette chimio-là, elle est trop forte. Mais c'est pas grave, il y en a peut-être une autre chimio qui va vous guérir. Puis aussi, l'autre chimio, les chimios, peut affecter aussi votre santé mentale. Ça, c'est très important parce que la chimio vous écrase. Puis, entre vos deux oreilles, les médicaments que vous prenez des fois qui vont contre les effets secondaires peuvent affecter votre santé mentale. Vous allez dire, coudonc, je pleure à rien, je suis découragé, je suis pas de même. Puis là, vous pleurez beaucoup, tout ça. Tandis que là, en ayant un psychologue, puis même une psychiatre aussi, qui peut aider aussi à contrôler la médication, qui peut aider à éviter là, que vous tombez dans je sais pas, un état dépressif, parce que c'est vraiment dur moralement quand on se fait dire qu'on a le cancer. Puis là, vous avez à peu près 8 mois devant vous, là, vous allez avoir des cycles importants, vous allez perdre vos cheveux, puis vous perdez aussi sans le vouloir, parce que vous changez intérieurement, puis vous changez aussi mentalement. c'est que avant vous étiez, vous bougiez beaucoup, vous faisiez beaucoup de choses, puis vos amis vous accompagnaient là-dedans, puis vous accompagniez vos amis. Mais là, à ce temps, vous êtes comme un peu comme un saboon d'adver dans votre maison, dans votre logement. Le lazy boy, c'est comme votre meilleur ami, là. Puis là, les gens vous appellent, tu viens-tu, on va aller prendre une marche. Non, je ne fais pas parce que ça fait 2 jours, j'ai eu ma chimio, je suis fatigué, j'ai de la misère, puis j'ai de la misère à manger. Mais c'est ça, là, vous allez perdre vos amis, vous allez perdre certains amis, pas tous, vous allez en perdre. Puis même des fois, moi, j'ai pas de famille, rien, mais j'ai entendu des témoignages que des fois, les gens, des proches qui aimaient beaucoup cette personne-là, ils ont arrêté de la téléphoner parce que c'était trop dur pour eux autres. Mais ça, il faut accepter ça aussi.
Et M. Robert, qu'est-ce que vous faites pour vous changer les idées? Là, je pense que vous nommez des choses très importantes, hein, de santé mentale. Tu sais, c'est un gros choc, le cancer. Et bon, je sais que vous êtes un grand amateur de vélo, donc oui. J'imagine que vous allez nommer ça. Mais qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous faites encore maintenant pour garder un bon moral, vous changer les idées?
Mais moi, j'adore rire, faire des jokes, tout ça, mais j'écoutais souvent des émissions qui faisaient rire. Je les enregistrais, puis je les écoutais avant mes scans, je les écoutais avant mes traitements de chimio. Ça veut dire que quand j'arrivais à l'hôpital, j'étais dans un esprit positif, parce que j'avais ri énormément, tout ça. Mais c'est ça, parce qu'il faut remplir notre corps de cellules positives. Tout le temps. Puis aussi, quand on a des traitements de chimio, c'est très dur des fois de sentir que là, on commence à filer fatigué, puis à filer un peu pas bien. Mais moi, je mettais de la musique relaxante qui me donnait de l'espoir de vivre. Parce qu'il y avait un compositeur qui joue un genre de flûte qu'on appelle le dubuque. Il s'appelle Livan Minassian. C'est de la musique extrêmement religieuse, tranquille. Puis ça m'élevait vers le ciel. C'est bizarre à dire, là. J'écoutais ça le matin avant de partir pour l'hôpital. Puis quand j'avais mes traitements de chimio avec mon MP3, je mettais ça, puis je mets ça encore aujourd'hui. Quand j'ai mes scans, quand j'ai en attente de mon scan, je mets cette musique-là pour me calmer. J'écoutais de la musique. Quand je restais dans un logement, j'étais comme tout seul dans une boutique, au-dessus d'une boutique, mais je pouvais mettre la musique fort. Je mettais une musique comme exemple, Arvo Pärt, c'est un compositeur allemand. Puis lui, il fait beaucoup de musique classique, mais céleste. C'est comme j'avais la tête au paradis, j'avais le cœur au paradis, mais j'avais 2 pieds sur terre. Puis quand j'arrivais à mes traitements de chimio ou j'arrivais à mes examens, j'étais comme dans une autre atmosphère. Puis j'étais calme, j'étais reposé, puis j'étais de bonne humeur. Puis c'est ça qu'il faut avoir, il faut se remplir d'énergie positive.
Et qu'est-ce que vous diriez que le cancer a changé dans votre vie?
C'est vivre au jour le jour. C'est parce qu'ils nous mettent qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, puis on se dit, est-ce que je vais être capable de vivre là-dedans? Là, ça va être très dur. Mais aujourd'hui, tu t'es levé, tu as déjeuné, ça fait 3-4 jours, tu as eu ta chimio, ça commence à aller mieux, le goût dans la bouche commence à changer. Puis moi, qu'est-ce que je faisais? Une semaine après, j'allais me payer un bon club sandwich. Quand vous avez la chimio, là, puis votre cou dans la bouche est dégueulasse pendant une semaine de temps, là, dites-vous que dans 7 jours à 8 jours, là, ça va revenir normal. Alors, partez, allez au restaurant, allez vous chercher un club sandwich, puis mangez-le chez vous, là, puis dégustez-le. Vous allez voir, c'est super bon, c'est du paradis dans la bouche. Puis faites de l'exercice aussi. Pas rester vaché sous le divan parce que la chimio est très forte, hein, à vous épuiser. Allez prendre une marche tranquille, allez vous asseoir dans un parc. Relaxer, écouter les petits oiseaux, ou quand vous commencez à filer mieux, faites du vélo, faites des marches un petit peu plus longues, restez pas dans la maison à broyer du noir, là, puis à dire, il y a un autre chimio dans 3 semaines, est-ce que je vais être capable? Non, sortez, changez-vous les idées, écoutez la musique, parlez avec vos amis, allez vous prendre un café ou allez vous asseoir dans un parc, Puis oui, nourrir les petits oiseaux dans un centre d'interprétation de la nature, c'est tout ça. Comme je disais, une femme a dit, moi, je suis malade, j'ai juste le goût de m'asseoir puis rester à rien faire. Elle dit, j'ai un terrain, j'ai des mangeoires en arrière, mais j'ai sorti dehors, mettez-vous un bon manteau sur le dos, puis allez voir les oiseaux manger, prenez le temps de les écouter. Elle m'a dit, j'ai pas juste ça à faire, j'ai hâte de commencer à travailler, mais je dis, pour le moment, c'est comme ça. Mettez une pause, gâtez-vous pendant la pause. Puis dans 6 mois, 8 mois, quand votre cancer va être fini, guéri, mais là, vous allez pouvoir travailler. Mais pour le moment, changez-vous les idées positivement.
Bien, c'est des excellentes suggestions que vous nous donnez, M. Robert. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez rajouter par rapport à votre expérience avec le lymphome du manteau?
Je sais qu'au début, il n'y avait pas de traitement pour mon type de cancer. On a commencé avec des petites chimios. Aujourd'hui, maintenant, il y a des traitements pour mon type de cancer. Pas pour le guérir, juste pour le diminuer, le guérir partiellement. Alors, c'est ça qui me le la cellule du manteau, c'est ça, c'est rendu. Parce qu'avant, c'était un récidive très élevé en 2003, 2004. Mais aujourd'hui, on peut dire, on peut diminuer le cancer, on peut le contrôler un petit peu plus, mais à un moment donné, la chimio faiblit, puis le cancer continue. Surtout quand on a un cancer indolent, on a plus de chances de passer, pas à travers, mais prolonger notre vie, parce qu'il va toujours une chimio qui va nous attendre un peu plus loin pour qu'on puisse l'essayer, puis espérer qu'elle fasse effet à 90%, qu'on peut revivre encore une autre année, puis on verra dans une autre année qu'est-ce qui va se passer. Mais pour le moment, il faut. Là, j'ai un médicament là, qui diminue. Là, je travaille pour essayer de trouver d'autres types de traitements qui pourraient m'aider avec mon
Ben,
médecin oncologue.
parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup, M. Robert, d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous parler de votre expérience.
Oui, ça m'a fait plaisir.
Si vous avez des questions sur le lymphome non-Hodgkinien du manteau ou si vous avez besoin de soutien, je vous invite à communiquer avec nous en composant le 1-833-222-4884 ou encore visiter le www. SLLCanada.org pour nous joindre. À bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous. Merci d'avoir écouté la série de balados sur les cancers du sang de la Société de leucémie et lymphome du Canada. Vous pouvez nous trouver où vous écoutez habituellement vos balados préférés. Assurez-vous de vous abonner et de nous donner votre avis. Si vous avez des idées de balados à enregistrer, veuillez nous en faire part au Québec Info à commercial.lls.org. La Société de leucémie et lymphome du Canada se consacre au financement de recherches de pointe et au soutien des personnes touchées par les cancers du sang. Pour en savoir plus et accéder à des ressources, notamment des fiches d'information, des livrets et des webdiffusions, visitez slcanada.org.